Je promeux constamment l'idée de supériorité en cela que cela vient de l'élévation que l'on se permet en se hissant conceptuellement au-dessus des circonstances de la vie. Parce que j'estime que ces choses-là qui nous arrivent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne devraient pas définir notre personnalité intérieure. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous passe le bonjour. Il y a quelques semaines de cela, nous avons abordé le sujet du troisième œil. Je voulais revenir brièvement sur la chose parce que c'est un sujet assez vaste. Et bien que je ne sois pas vraiment en mesure de vous dire tout ce qu'il y a à savoir à propos, il y a quand même une chose cruciale à laquelle nous ne devons pas échapper. Dans l'épisode précédent où nous avons discuté du troisième œil, je vous parlais de la réalité transcendante, qui est la réalité unique qui existe, puis celles qui viennent de la perception de chacun, c'est-à-dire les pseudo-réalités, qui sont la relation qu'il y a entre chaque personne, chaque être humain et la réalité transcendante. Donc, quand nous percevons la réalité transcendante, nous ne la voyons presque jamais comme elle est vraiment. On la perçoit toujours selon nous, notre expérience, notre point de vue. Nous avons longuement discuté de la réalité, de sa provenance, de ce qu'elle représente pour la création et de ce qu'elle représente pour nous par rapport à la création. Le troisième œil, ce n'est pas qu'un mythe, ce n'est pas non plus, comme les gens le pensent, un œil qui s'ouvre au milieu du front. La raison pour laquelle on dit que le troisième œil est siégé dans la glande pinéale qui se trouve être justement au milieu de la matière grise, c'est parce que cette glande pinéale est reliée aux deux hémisphères par ce qu'on appelle des pédoncules latéraux et antérieurs. Ces pédoncules permettent aux neurones de la glande pinéale de communiquer avec les deux hémisphères. Quand la matière grise est stimulée jusqu'à un certain niveau, les deux hémisphères se connectent plus fortement et le cerveau commence à faire des connexions inaccoutumées. Les comportements émotionnels et mentaux des êtres humains dépendent en grande partie de la nature des connexions qui se font entre ces différentes parties du cerveau. Nous savons que des deux hémisphères, celui de gauche est associé au traitement logique, le donné tout simplement. Celui de droite, en revanche, est associé à tout ce qui est intuitif, imaginatif et créatif. C'est cet hémisphère qui gouverne le goût de l'art, de la musique et ainsi de suite. Il y a un mythe selon lequel il est rare que ces deux hémisphères soient développés également en une personne lambda. Mais comme je viens de le dire, ce n'est qu'un mythe. Et c'est le développement général et extrême de ces deux hémisphères qui équivaut au troisième œil. Mais ce n'est pas tout, suivez-moi. Dans la spiritualité, il est dit que le troisième œil est le siège de la conscience. La conscience, dans ce contexte-ci, c'est l'organe de régulation personnelle de l'existence, c'est-à-dire l'organe qui nous permet de déterminer que nous existons. Ici, cette conscience, c'est notre cerveau, ou tout au moins sa fonction principale. Nous pensons notre existence grâce au fait que nous avons un cerveau, n'est-ce pas? Alors, nous sommes conscients d'exister grâce à notre cerveau. C'est notre cerveau qui nous permet d'exister et de reconnaître que nous existons. Car si le cerveau est détruit, on devient un légume. Les humains sont formés similairement et sur certains sujets ont la même perception. La raison de cette similarité, vous me direz, est que tous les humains sont pareils. Cela est vrai. Mais ça va plus loin. Nous avons dit plusieurs fois ici que nous sommes tous des coupures détaillées d'une même conscience, c'est-à-dire la conscience de Dieu. Au moment où nous parlions du mythe d'Adam et Ève, nous avons aussi dit que Dieu nous a créés à son image. Non pas seulement en apparence, mais aussi en logistique. Ce qui veut dire que notre conception complète a été créée en accord avec ce qu'il est et ce qu'il pense que nous devons être pour que toute la création soit équilibrée. Ainsi donc, nous nous retrouvons à être des prolongements du même principe divin. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que Dieu, l'alpha et l'oméga, le créateur, ou tout ce que vous voulez l'appeler, c'est le noyau principal, la source même de notre création. Ensuite, nous autres, qu'il a créés à son image, sommes tous différentes représentations de lui. Donc, Jean, Jacques et Paul sont juste Dieu dans différents corps physiques. Mais plus loin encore, ils sont des parties de Dieu. Et puisqu'ils se retrouvent tous en Dieu, Dieu se retrouve en eux tous. Parce que justement, il est la base même de leur création. Si on doit parler en termes basiques et familiers ici, on dira qu'au niveau moléculaire, tous les humains sont Dieu. Le problème ici, c'est que tous les humains ne sont pas au courant parce que, comme nous l'avons dit une fois, être au courant de ce fait, c'est accepter la réalité de la vie. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont prêts à accepter la réalité de la vie. Que l'on ouvre les yeux à notre divinité personnelle inclut non seulement l'ouverture spirituelle à ce pouvoir, mais aussi l'ouverture au mal existentiel qui vient avec. Si vous vous rendez compte que vous êtes divin, eh bien, cela veut dire aussi que maintenant votre vue peut s'étendre au-delà des choses superficielles qui peuplent notre vie quotidienne. Dieu n'est pas étranger à la souffrance de l'homme, parce que la nature et la réalité qu'il a créée viennent avec cette souffrance-là. Cela ne veut pas dire que les souffrances existentielles sont là pour nous faire souffrir. Excusez le jeu de mots. Cela veut juste dire que les souffrances sont là pour servir de jauge à notre niveau d'apprentissage. Apprentissage de quoi? Apprentissage de l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil, me direz-vous? Et en quoi consiste-t-il? Déjà, à quoi vous fait penser le mot éveil? Certainement au mot réveil, n'est-ce pas? Le réveil, c'est le retour à la conscience d'un état d'endormissement dans lequel on a été plongé. La chose ici est qu'il n'est pas important de savoir quelles sont les raisons de l'endormissement, puisque la raison est non importante par rapport à la chose principale du réveil. Quand on procède à un réveil, on ouvre les yeux, n'est-ce pas? On ouvre les deux yeux. Et le processus s'opère à chaque fois quand on s'endort. Mais ici, l'éveil est différent. En cela que c'est aussi un réveil, mais il ne s'opère qu'une seule fois. Dans le cas d'un éveil, il s'agit d'un réveil spirituel. Et quand on se met en éveil, on sort d'un endormissement spirituel. L'endormissement spirituel ici correspond à la vie matériel. La vie que vous et moi menons tous les jours, c'est-à-dire quand on se réveille le matin, on vit en pensant à des choses superficielles, comme ce qu'on mangera le soir, comment on payera le loyer le mois prochain, comment on fera pour satisfaire les besoins de luxure qu'on a, ainsi de suite. Cela est l'endormissement spirituel. Qu'on se comprenne, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'être endormi spirituellement, ou tout au moins, pardonnez-moi encore, de vouloir et de désirer ces choses-là qui sont caractéristiques de l'endormissement spirituel. Ce n'est pas une mauvaise chose, puisque tout le monde n'est pas appelé à s'éveiller. Je disais tantôt que la prise de conscience de sa propre divinité vient en alliage avec des responsabilités. Et c'est pour cela qu'il est plus facile de rester endormi tout au long de notre vie. L'éveil, tout comme le réveil, nécessite l'ouverture d'un organe oculaire. Et c'est là que le troisième œil entre en jeu. Puisque si le réveil correspond à l'ouverture des deux yeux que nous connaissons, en ajout à une prise de conscience au niveau basique, eh bien, l'éveil, lui, correspond à l'ouverture du troisième œil en ajout à de la prise de conscience à un niveau très élevé. Cette prise de conscience, ce n'est pas juste la prise de conscience qui nous permet d'exister et de faire ce qu'on doit faire dans une journée. Il s'agit d'une prise de conscience plus étendue, plus douloureuse, plus significative. Il s'agit d'une prise de conscience unitaire. Dans ce cas-ci, nous ne nous maintenons plus à distance des autres humains, puisque nous commençons à comprendre clairement pour quelle raison il est dit que Dieu nous a créés à son image. Ce concept est un concept qui se ressent beaucoup plus qu'il ne s'enseigne. L'éveil, caractérisé donc par l'ouverture du troisième œil, c'est l'arrachement du voile qui cache à nos yeux la réalité qu'ils ne peuvent pas voir. Comprenez la différence ici entre voir et regarder. Regarder nécessite une intention. Et cette intention n'est pas à la disposition des deux yeux que nous ouvrons chaque jour au réveil. Du coup, les deux yeux ne peuvent que voir parce qu'ils permettent au cerveau de traiter les informations qui sont simplement à portée de vue immédiatement. Le regard, cependant, va plus loin encore, car on ne peut regarder que ce qu'on cherche à voir. L'ouverture de cet œil-là, c'est un processus progressif qui nécessite du travail. Un travail spirituel ardu et discipliné. Cela est d'autant plus dur parce que sur ce chemin, on est généralement seul. Puisque c'est un chemin très inconfortable et beaucoup de personnes se demandent en quoi il est important de s'éveiller alors qu'on a déjà tout ce qu'on veut dans la vie matérielle. La réponse à cette question est simple. L'éveil est important parce qu'il nous permet de nous bonifier et de devenir des êtres humains plus dignes de l'existence. L'éveil est une transformation profonde de soi-même et de soi-même en relation avec le monde. L'éveil n'est pas un concept que l'on peut jeter à la face de ses contemporains pour leur prouver qu'on leur est supérieur. L'éveil, c'est la destruction de l'ego et la destruction du concept de l'identité individuelle. Je disais tantôt que l'être éveillé voit la divinité dans la création. Suivez-moi bien ici, ça risque d'être un peu complexe. L'ouverture du troisième œil correspond à l'éveil. L'être qui est éveillé, qui a ouvert donc cet œil, qui lui permet de regarder, donc voir avec intention, perçoit en ce moment jusqu'au fond de la réalité et comprend pourquoi on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. La raison étant simplement qu'il y a une partie de Dieu en nous tous. La raison de ce fait devient que, puisqu'il y a Dieu, en nous, l'être éveillé ne voit plus juste des êtres humains. Il voit plutôt Dieu à l'intérieur des êtres humains. Et donc, l'identité individuelle de ces êtres humains disparaît, puisque les différentes identités se fondent l'une dans l'autre pour ensuite donner une identité collective et universelle, celle de Dieu lui-même. L'identité individuelle d'une personne, c'est ce qui lui permet de dire « je suis ». Ce « je suis » n'est pas le « je suis » ordinaire que nous disons avant de déplier notre titre ou notre nom. C'est plutôt un « je suis » qui nous pousse à nous mettre au-dessus des autres humains. Ce « je suis », c'est notre ego, notre « moi » pédant, qui tient fermement à son existence. La raison pour laquelle ce « moi » tient autant à son existence, c'est parce que ne pas se réaffirmer chaque fois veut dire pour ce « moi » qu'il n'existe pas. L'ego existe parce que l'humain craint de disparaître. Alors, il s'attache à son identité. Cette identité est parfois fausse parce qu'elle s'enfile autour d'un narratif de la réalité que nous avons tantôt appelé la pseudo-réalité. Cette pseudo-réalité, c'est la relation que nous avons tissée avec la réalité transcendante. Et généralement, dans cette réalité, nous sommes au centre du monde. C'est pour cela que nous souffrons. Quand vous souffrez du fait que votre vie est misérable, votre vie est un désastre, et que vous êtes la personne qui souffre le plus au monde, et que vous ne ratez absolument aucune occasion de dire à qui veut l'entendre à quel point vous souffrez, eh bien, ce n'est que l'expression de votre relation avec la réalité transcendante. C'est votre ego qui parle. Vous vous mettez simplement au centre du monde parce que cette perception de la réalité que vous avez vous donne l'impression que votre vie est plus importante que celle des autres. Et vous vous sentez grandi. Peut-être que parfois vous vous comparez à Jésus. Vous vous dites que toutes les souffrances du monde, c'est vous, c'est sur vous qu'elles tombent. L'être éveillé n'a pas d'ego. Parce que l'on ne peut pas atteindre les grandeurs infinies que confère l'éveil si l'on se limite à l'ego. Considérez la conscience individuelle comme un étang. Juste à côté de cet étang, il y a un fleuve qui fait peut-être 1000 fois la superficie de l'étang. Ce fleuve, c'est la conscience universelle. Quelque part au milieu de ces deux étendues d'eau, il y a une sorte de petite barricade qui empêche l'étang de se déverser dans le fleuve. Cette barricade, c'est l'ego. L'être éveillé est au courant que cette barricade ne lui rend aucun service. Alors, il s'en est débarrassé. L'être éveillé comprend qu'en tant qu'étang, il va se jeter dans le fleuve, il sera une partie du fleuve et que le fleuve sera une partie de lui. Le contenu du fleuve devient celui de l'étang et le contenu de l'étang devient celui du fleuve. En laissant l'ego, on ne s'abandonne pas. On évolue simplement à un niveau de conscience élevé et plus inclusif. Rappelez-vous qu'un jour, nous avons brièvement parlé du registre akashique. Ce que nous avons défini comme étant un terme synonyme de la conscience universelle. Cette conscience universelle, vous ne pouvez la voir qu'en faisant une introspection, c'est-à-dire en retournant à l'intérieur de vous-même. Et ce même retour à l'intérieur de soi est le même chemin par lequel on enclenche le processus de l'éveil. Parce qu'il implique le détournement de soi, des choses et de la vie matérielle vers la concentration vers les choses plus élevées. les besoins matériels, c'est ce sur quoi se concentre l'ego. L'ego veut être riche. L'ego veut coucher et s'afficher avec les plus belles femmes. L'ego veut qu'on se réfère à lui comme à un sujet supérieur. L'ego veut être vu dans toutes les fêtes. L'ego associe son statut aux belles voitures et l'ego fond vite en pleurs quand les choses ne se passent pas comme prévu. L'ego estime qu'il n'a droit qu'aux bonnes choses et que pour une raison obscure que même moi je ne comprends pas, les mauvaises choses ne doivent pas lui arriver. Le problème n'est pas que l'ego veuille toutes ces choses-là. Le réel problème, c'est la raison pour laquelle l'ego veut ces choses. L'ego associe son statut à ces choses. L'ego associe son bonheur, son sens profond d'existence à ces choses. Alors que l'être éveillé trouve en ces choses non pas la finalité, mais plutôt une façon d'atteindre la finalité, qui est un éveil plus assis et une pratique journalière des activités qui peuvent enraciner le sens de l'éveil. Quand vous prenez l'exemple d'une personne animée uniquement par l'ego et d'une autre personne éveillée, toutes les deux personnes peuvent être mues chaque matin par la recherche de l'argent. D'accord? Cependant, les deux personnes n'ont pas le même objectif final. La personne animée par l'ego veut avoir l'argent juste pour avoir l'argent. Il veut avoir l'argent pour élever son statut en tant que personne riche. Juste pour avoir le qualificatif d'une personne riche. L'être éveillé, en revanche, veut avoir l'argent parce qu'il sait qu'il va l'utiliser pour des objectifs plus grands, plus nobles. L'être éveillé veut peut-être construire une école, construire un centre de réhabilitation, ou peut-être ne rien construire du tout, mais avoir assez d'argent pour ne pas avoir à se lever le matin pour aller travailler et passer plutôt ce temps assis dans le vide à méditer. C'est aussi une possibilité. L'être éveillé vit au-dessus des besoins matériels. L'être éveillé, c'est celui qui n'a pas besoin de s'abandonner dans des mouvements qui animent les corps à travers leurs désirs. L'être éveillé, c'est celui qui n'a pas besoin d'indulger dans la satisfaction des plaisirs, des besoins du corps. L'être éveillé peut se passer de nourriture pendant un très long moment. L'être éveillé peut se passer de relations physiques intimes pendant un très long moment. L'être éveillé peut se passer de compagnie pendant un très long moment ou carrément adhère à l'idée de solitude comme étant une conversation avec lui-même. La personne animée par l'ego, c'est la personne qui demande à avoir des proches, une compagnie, non pas parce qu'il veut réellement avoir des compagnies, mais simplement parce qu'il estime qu'il est très important que ces personnes-là qui sont autour de lui puissent le complémenter. Encore une fois, nous voyons à quel point l'être animé par l'ego a besoin de toutes les choses matérielles juste pour se sentir exister. L'être éveillé, par contre, c'est celui qui a besoin non pas de toutes ces choses matérielles-là pour exister, mais qui a besoin de l'existence et de la sorte de conflit intérieur que ces choses représentent pour s'élever au niveau d'elles. L'être éveillé, c'est celui qui pense que la richesse n'est pas importante, mais qui va quand même à la poursuite de l'argent. Non pas parce que l'argent le définit, mais simplement parce qu'il estime qu'il pourrait utiliser cet argent pour prouver que l'argent n'est pas important. L'éveil, c'est l'acceptation de la vie. Quand une personne meurt, d'être éveillé n'y voit pas l'abandon ou le deuil, mais plutôt une nécessité. Dieu a créé la réalité avec un sens de dualisme très classique. Il y a le chaud et le froid, le tout et le rien, le rire et les pleurs, la tristesse et la joie, la vie et la mort. Tous les contraires ne sont que les deux faces d'une même médaille, où l'une n'existe pas sans l'autre. Si tout le monde devait vivre et que personne ne devait mourir, eh bien, je crois que personne n'existerait. Alors, il faut accepter la vie comme elle vient, pratiquer les vertus, se forcer à ouvrir l'œil qui permet l'éveil. Regarder au-dedans de soi, c'est la seule condition à laquelle on pourra non pas être heureux, mais être content, car c'est cela le but réel de la vie. Être content, content de faire l'expérience de la vie et ce qu'elle apporte de beau et de laid. Les expérimenter ensemble ou séparément, sans les juger, sans leur en vouloir, sans en pleurer et sans pour autant en rire à gorge déployée. L'éveil, c'est la transcendance, le dépassement de ce qu'on peut voir, l'acquisition de la faculté dont on a besoin pour regarder les choses qui échappent à notre vue immédiate. Il est dur de s'éveiller, car le chemin est long, solitaire et lancinant. Parfois, il arrive qu'on se demande pourquoi soit. Mais la réponse vient après qu'on ait tout vécu. Sur le chemin de la vie, vous apprendrez tout. Vous apprendrez la fierté, vous apprendrez l'humilité. Et bien que les deux termes semblent être distincts et contraires, vous apprendrez aussi qu'on peut avoir l'un en pratiquant l'autre. Vous pouvez être fier en étant humble, car, comme on a dit une fois, humilité n'est pas la soumission à un autre être qu'on estime être supérieur, mais plutôt une soumission profonde à la réalité transcendante. Cette soumission, c'est elle qui vous ouvre le troisième œil, car si vous acceptez la vie comme elle vient, vous acceptez aussi votre origine divine et ainsi vous devenez un être éveillé. Car non seulement vous acceptez votre origine en vous-même, votre divinité, mais vous la voyez dans les autres aussi. Et en ce moment, vous voyez et contemplez Dieu à chaque fois que vous ouvrez vos trois yeux. Éveillez-vous et vous verrez la vie comme elle paraît et aussi comme elle est. Et plus rien ne vous titillera. Maintenant, fermez vos deux yeux et ouvrez le troisième. Vous serez d'abord un aveugle endormi et ensuite vous deviendrez un cyclope éveillé. En attendant, moi, c'est Ice et ici, c'est le IcePod. Je vous parle la semaine prochaine. À plus. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié cet épisode ou n'importe lequel des autres que j'ai pu mettre à votre disposition jusque-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me faire un don de n'importe quelle nature qu'il sera. Je suis disposé à le recevoir. Nous avons besoin de tout le support que nous pouvons avoir pour faire grandir cette chose que nous sommes en train de faire ici. Bientôt, nous aurons une page Patreon sur laquelle vous pourrez avoir accès à des épisodes plus exclusifs. Nous aurons aussi une page YouTube sur laquelle vous pourrez voir ma vilaine face. Et bientôt, il y aura une page Instagram sur laquelle nous pourrons interagir de façon